France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Pour cette semaine du cerveau qui a lieu partout en France, on poursuit notre programmation spéciale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de distinguer notre propre corps du monde extérieur? C'est grâce à un sens encore méconnu, la proprioception. Petit test facile à faire, fermez les yeux et touchez le bout de votre nez avec l'index. Si vous y parvenez, c'est grâce à la proprioception, souvent considérée comme notre sixième sens. Marcher sans regarder ses pieds, chercher des clés dans un sac, recoiffer son chignon, il nous permet de percevoir notre corps, de le situer dans l'espace, même sans le voir. Sans lui, nous ne pourrions pas marcher. Il suffit de regarder l'apprentissage de la marche chez un enfant pour le comprendre. Le mouvement, par nature, est source de déséquilibre. Alors comment ce sens façonne-t-il notre perception du monde et de nous-mêmes? Proprioception, le sens de la marche. Anne Cavounoudias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Centre de recherche en psychologie et neurosciences, directrice de l'équipe corps et multisensorialité et professeure de neurosciences à Aix-Marseille Université. Frédéric de Vignemont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche CNRS, spécialisée dans la philosophie de la perception et l'autrice de l'ouvrage « Désenchanter le corps » publié chez Odile Jacob en 2023. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. Quant à Twitter, la communauté scientifique s'est réfugiée sur Blue Sky. Vous pouvez nous y retrouver. Tous les jours, nous publions pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelles perceptions sont permises par la proprioception et par quel mécanisme? Comment a-t-on prouvé l'existence de ce sens? Et d'ailleurs, comment définir un sens? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence sur un terrain de basket avec notre archive du jour.
Toujours la même position, toujours le même geste. Le lancer franc devrait être le tir le plus simple au basketball. Et pourtant, le taux de réussite pour certains professionnels peut tomber à 50%. Des chercheurs ont voulu savoir pourquoi.
Le projet qui nous intéresse particulièrement tourne autour de la notion de proprioception, que certains ont appelé le sixième sens. C'est le sens de la position. C'est-à-dire que le cerveau, le système nerveux central, a des capteurs à sa disposition qui sont dans les muscles, dans les articulations, dans les tendons. Et ces capteurs permettent au système nerveux central, au cerveau, de connaître la position des différents segments corporels, les uns par rapport aux autres, et de les situer dans l'espace. Et ça, c'est un sens qui est particulièrement important dans la vie de tous les jours, dans les gestes de la vie de tous les jours, comme dans le sport de haut niveau.
Nous sommes à l'Institut des sciences du mouvement de Marseille, dans une salle qui permet justement d'étudier le lancer franc au basket avec des joueurs de niveau universitaire.
Nous avons fait l'hypothèse que c'était la position du poignet qui était importante parce que les derniers ajustements lors du tir au lancer franc se font par le poignet. Et donc ces ajustements fins qui sont faits par le poignet seraient, selon nous, basés sur l'information proprioceptive.
Voilà un extrait d'une vidéo du CNRS Images en 2019, réalisée par Hervé Colombani et Nicolas Bacquer. Frédéric de Vignemont, là on entendait parler de lancer franc, mais on a un million d'exemples pour se représenter l'importance de la proprioception.
La proprioception, pour moi, la meilleure manière de montrer à quel point c'est important, alors, c'est de décrire finalement qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête. Alors, quand on parle de la vision, on va parler des aveugles et des non-voyants, et on connaît assez bien, malheureusement, toutes les difficultés que ces personnes peuvent rencontrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la proprioception, eh bien, c'est comme la vision dans un sens où ça marche très très bien la plupart du temps, mais quelquefois, ça marche moins bien. Et en particulier, je pense à des patients qui ont eu une maladie neuropathique qui a attaqué les nerfs et qui, suite à cela, ne ressentent plus ni toucher ni proprioception. Et ce qui est frappant, c'est les premiers mois de leur maladie, donc cette maladie qui s'appelle la désafférentation périphérique. Les premiers mois après avoir souffert de cette condition, eh bien, ces personnes sont condamnées à rester au lit. Non pas parce qu'elles ne peuvent, elles sont paralysées, elles n'ont aucun problème moteur, elles peuvent parfaitement bouger, elles peuvent contrôler leurs membres. Mais quand on n'a plus l'information sur où se trouve votre bras, où se trouve votre jambe, eh bien, vous ne savez pas comment la diriger et vous ne savez plus rien faire. Et ça montre à quel point, sans la proprioception, finalement, on est comme une marionnette qui n'a plus ses petites ficelles qui lui permettent de bouger à droite, à gauche.
Anne Cavounoudias.
Une autre dimension, effectivement, d'importance pour la proprioception, on le voit bien dans ce reportage sur le basket, c'est l'apprentissage. On ne peut pas apprendre de nouvelles séquences motrices, on ne peut pas apprendre un sport à haut niveau sans proprioception. Le cerveau procède par essai-erreur. Donc, vous allez d'abord envoyer une séquence de mouvements pour justement vous entraîner à se lancer franc. Vous allez évidemment manquer le panier un certain nombre de fois. Et il va falloir, pour votre cerveau, apprendre et intégrer les erreurs et les corriger. Et ces corrections ne sont possibles que si vous avez la proprioception. Donc il est absolument impossible d'apprendre un nouveau geste, un nouveau mouvement sans proprioception.
Cette importance de l'apprentissage, ça me fait penser à cette question. La proprioception n'est pas totalement innée.
Alors, la proprioception, elle se développe un petit peu comme tous les sens, en réalité. Effectivement, elle va évoluer avec le corps. Et notamment, effectivement, chez l'enfant, elle est pas mature complètement, la proprioception. On se rend compte que c'est plutôt... ça commence autour de 10-12 ans, où vraiment, elle commence à avoir une fonction à être efficace. En dessous des 10-12 ans, les enfants sont plutôt, on va dire, très visio-dépendants. Donc, dans leurs gestes, dans leur posture, dans leur activité physique, justement, ils ont beaucoup plus besoin de la vision que les adultes. Et ça, on observe une espèce de pondération des entrées sensorielles en fonction de l'évolution.
Frédéric Devignon, là on évoque les enfants, mais aussi on peut penser aux adolescents qui peuvent paraître souvent maladroits. C'est parce que c'est un moment aussi où le corps grandit trop vite, évolue trop rapidement pour eux.
C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile et compliqué de savoir qu'on a les jambes croisées ou qu'on a le bras tendu ou est-ce qu'il est assez bien tendu pour pouvoir toucher la bouteille d'eau. Tout ça, c'est en fait très compliqué parce qu'il faut savoir où se trouve chaque segment du bras. Et quand vous réfléchissez à un bras, vous voyez toutes les articulations qu'il y a. Mais aussi, il faut savoir la taille de chacune de ces parties. Et ça quand on est en adolescent, typiquement, on a des crises de croissance. Et donc, il doit combiner toutes ces informations déjà sur chacune des articulations. Déjà, c'est beaucoup de signaux, même pour un adulte. Mais en plus, avec cette zone un peu floue du style, bon bah, ok, il y a quelques mois, je mesurais ça, maintenant, j'ai pris 10 cm de plus. Et qu'est-ce que ça donne? Sachant, bien entendu, on le sait, les enfants, ils ont tendance à grandir. Alors, il va y avoir de manière pas très proportionnée selon les parties du corps. Donc, le bras va pas grandir autant que les jambes. Donc, comment calibrer tout ça? Comment apprendre la représentation juste de son corps? C'est très compliqué. Et combiné à ça avec la complexité de la proprioception, qui n'a rien de simple, et ça je pense qu'Anna peut nous en parler plus, ça fait quelque chose qui forcément sème un peu le chaos dans le cerveau déjà un peu embrumé des adolescents.
Mais Anne Cavanoudias, d'ailleurs à propos de ce bras qui se tend pour prendre une bouteille d'eau, on distingue généralement la proprioception statique et la proprioception dynamique. Quelle différence?
Oui, en effet, en fait, la particularité de la proprioception, c'est qu'elle est composée de capteurs, elle met en jeu des capteurs qui ont des propriétés, et ces propriétés, elles sont doubles. Ces capteurs, ils peuvent à la fois coder la position et les mouvements. Ils sont doubles parce qu'ils ont deux structures distinctes qui leur permettent d'assurer cette double fonction. D'ailleurs, en biologie, on associe beaucoup structure et fonction. Souvent, si on a deux structures différentes, ça veut dire qu'on va avoir deux fonctions. Et donc, le système est capable de coder à la fois l'état de longueur des muscles, donc ce qui ne bouge pas, ce qui est statique, et ce qui nous permet de percevoir finalement les positions de notre corps. Donc même si on ne bouge pas, on est capable de percevoir la configuration corporelle dans laquelle on se trouve, les jambes croisées, les bras sur la table. Et dès lors qu'on est en mouvement, alors là on va actionner le deuxième système qui est plus dynamique et qui lui va vraiment coder les mouvements, la vitesse, l'accélération, la direction. Et ce sont ces deux systèmes qui nous permettent d'avoir conscience à la fois des positions et des mouvements de notre corps.
Mais moi j'aurais une petite question là, je croyais que quand on ne bougeait pas, finalement, on était devenu assez pitoyable pour localiser son bras et que si je laisse mon bras sans bouger pendant 5 minutes, je m'appuyais principalement sur les souvenirs de sa position et que je n'étais pas très capable, si on me demandait de pointer sur l'endroit où était mon bras, j'allais me tromper. Donc ce que tu sembles dire, c'est que malgré tout, je ne devrais pas me tromper parce qu'on a cette proprioception statique.
Oui, on a clairement une proprioception statique, même si... le corps statique n'est pas naturel. Notre corps n'est pas fait pour être statique. Et effectivement, ces capteurs, même les statiques, ont besoin de petits changements pour comme un rafraîchissement, une réactualisation du capteur. Donc si effectivement on met complètement, on immobilise complètement notre corps, on a tendance à se perdre et à ne plus savoir où on est. Et il suffit de très léger mouvement pour réactiver les capteurs.
Ces capteurs, justement, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, Anne Cavamnoudias. Vous travaillez plus précisément sur la proprioception musculaire. C'est un sens qui participe à la perception de la proprioception.
Oui, exactement. La proprioception musculaire, donc, c'est vraiment le sens musculaire. C'est le fait que le muscle, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas qu'un effecteur du mouvement, c'est aussi un organe sensoriel. Un peu comme nos yeux ou nos oreilles. Et dans nos muscles, on a donc ces capteurs sensoriels, qui sont les capteurs musculaires, qui vont capter les changements de longueur du muscle, qui sont reliés à des fibres sensorielles, qui vont alimenter, informer le cerveau sur l'état de longueur de tous les muscles du corps. On en a quand même 600. Et à peu près 50 000 capteurs répartis dans toute notre musculature. Donc votre cerveau reçoit 50 000 informations en permanence.
Ce que je disais sur le côté compliqué.
Et il va intégrer tout ça pour vous donner une idée à chaque instant de tous les mouvements de votre corps et de toutes vos positions.
C'est que le cerveau, c'est un réseau, tout est connecté, la perception est multisensorielle. Mais alors, concrètement, comment ça se passe quand, par exemple, voilà, si je tends le bras, je saisis ma gourde. Concrètement, quel est le circuit, quel est le cheminement de ces capteurs jusqu'au cerveau?
Eh bien, déjà, pour pouvoir programmer un mouvement, ça va commencer par la proprioception musculaire. Vous devez savoir comment vous êtes positionné, où se trouve votre bras, pour pouvoir programmer le mouvement qui va vous permettre d'atteindre la bouteille qui est sur la table. Donc ça démarre par la proprioception musculaire, donc où je me trouve avant de pouvoir programmer le mouvement. Ensuite, le cerveau, lui, va programmer une commande motrice. Il va envoyer une commande à vos muscles qui vont donc se contracter. Là, ça va générer du mouvement. Et pendant que le mouvement est généré, en retour, les muscles vont renvoyer une information sur le mouvement lui-même, de manière à permettre à votre cerveau d'évaluer votre performance motrice. Est-ce que vous avez bien réalisé le mouvement que vous souhaitiez ? Et donc ça va nécessiter à nouveau la proprioception. Donc elle est un peu au départ du mouvement et elle suit le mouvement et elle permet aussi d'évaluer le mouvement.
Alors, Frédéric de Vignemont, les sens donc, sont soumis à beaucoup d'illusions, d'erreurs, les illusions d'optique par exemple. La proprioception ne fait pas exception. Vous avez des petites expériences à faire à nos auditeurs pour bien se rendre compte que la proprioception oui. n'est pas infaillible.
En fait, ce qui est intéressant avec la proprioception, c'est qu'on pourrait croire que ça devrait être infaillible parce que souvent, les illusions d'optique, c'est parce que on va avoir des filtres colorés qui vont faire voir les choses de manière de couleurs différentes ou parce qu'à cause du contexte ou parce que c'est loin. Et très souvent, ces illusions peuvent s'expliquer par le contexte et par les intermédiaires entre nos yeux et l'objet que l'on voit. Là, dans le cas de la proprioception, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'intermédiaire, ça devrait être la chose la plus directe, la plus immédiate du monde. Et pour autant, on se trompe, on n'est pas infaillible. Alors, une des illusions que moi j'aime bien faire avec mes propres étudiants, qui est un petit peu plus difficile ici à faire dans le cadre de la radio, ou en tout cas de le montrer, c'est de faire un peu ce que j'appellerais l'illusion de la ballerine. C'est-à-dire que vous prenez votre bras, que vous tendez au-dessus de votre tête comme si vous étiez une petite ballerine toute mignonne, en pointant avec votre index, et les yeux fermés. Une fois que vous l'avez fait, avec l'autre main, donc les yeux fermés, vous allez chercher votre index, de telle sorte que les deux index se touchent. Et là, mine de rien, quiconque essaye de faire ça s'aperçoit qu'elle est là à tâtonner un petit peu, croyait l'avoir atteindre et en fait se retrouve à pointer sur d'autres doigts et est un petit peu maladroite. Une autre illusion qui est...
En tout cas, on l'a tous fait dans l'équipe CQFD, tous en effet.
Moi, j'ai celle de Pinocchio.
Autrement, voilà, j'allais parler justement de l'illusion de Pinocchio qui consiste à faire vibrer, alors la proprioception, ce sont les muscles, ce sont aussi les tendons. Et donc...
C'est les capteurs musculaires qui sont...
Ah bah alors ça, je suis corrigée.
Pardon. Non, c'est que je l'utilise beaucoup.
Oui, et bah vas-y alors.
Donc un moyen expérimental, on va dire, de mobiliser la proprioception musculaire justement pour mieux comprendre son rôle et les conséquences de sa stimulation, c'est d'utiliser un vibrateur mécanique effectivement appliqué sur le tendon, mais ça a pour effet de stimuler les capteurs musculaires. Un peu comme quand le médecin, vous savez, vous tape sur le tendon pour vérifier que votre jambe va bouger. En fait, ce qu'il fait en faisant ça, c'est qu'il va activer les capteurs musculaires et entraîner un réflexe qui est lié à ces capteurs musculaires. Et donc, si on stimule ces capteurs musculaires avec une vibration mécanique, on va envoyer un message d'étirement du muscle au cerveau que le cerveau va interpréter comme étant un mouvement alors que le sujet n'a pas bougé. Donc, le sujet va percevoir une illusion de mouvement alors qu'il n'a pas bougé. Et ça permet effectivement de mobiliser la proprioception qui est de manière très spécifique et d'aller ensuite, par exemple, étudier les activations cérébrales associées ou... Voilà.
Et si ça s'appelle l'illusion de Pinocchio, c'est que si vous faites ça avec l'impression que votre bras, vous le faites sur votre bras, vous avez l'impression que votre bras va s'étirer alors qu'il est plié, mais en fait il ne bouge pas, mais en même temps vous tenez le bout de votre nez, Là, le cerveau se retrouve confronté à des signaux contradictoires parce qu'il a l'impression d'avoir son bras qui s'allonge, donc qui s'éloigne du visage. Pour autant, vous sentez toujours votre nez. Donc, la solution trouvée par le cerveau, c'est que votre nez s'allonge tel Pinocchio.
Bon, mais j'imagine également tous nos auditeurs, toutes nos auditrices en train d'essayer justement ces tests de proprioception. Maintenant, comment définit-on ce sens d'un point de vue neurophysiologique ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Anne Cavounoudias et Frédéric de Vignemont, nous parlons de proprioception, ce sens qui nous donne des informations spatiales sur la position de notre corps. Dans l'obscurité, les yeux fermés, nous sommes capables de percevoir la position de nos jambes, de nos bras dans l'espace, d'effectuer des mouvements de façon contrôlée. La proprioception, c'est aussi un sens qui semble existait aussi chez certains animaux, comme pour la souris et le chat, Anne Cavounoudias.
Oui, la proprioception n'est pas limitée aux hommes, bien évidemment. Elle est chez tous les mammifères, elle est aussi chez les oiseaux, elle est même en fait chez les insectes. Alors, elle ne prend pas tout à fait la même forme, mais ils ont aussi des capteurs, les insectes, dans leurs cuticules, qui sont sensibles à des étirements de leur exosquelette. Et effectivement, on trouve ces capteurs à peu près, chez tous les mammifères et même les oiseaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas... Ils ne sont pas répartis de manière équivalente. Et par exemple, chez les oiseaux, on a trouvé une très grande densité des capteurs musculaires dans des tout petits muscles qui sont ceux qui actionnent les ailes des oiseaux. C'est là où on a la plus forte densité de capteurs musculaires. Et savez-vous, chez l'homme, où se trouve la plus forte densité de capteurs musculaires dans notre musculature ?
Je vais mettre la langue au chat.
Ce n'est pas dans les muscles des doigts, mais c'est dans les petits muscles qui actionnent nos yeux. Hein, puisque si nos yeux bougent, c'est parce que nous avons des muscles extraoculaires qui font bouger nos yeux. Et la plus grande densité de capteurs musculaires se trouve dans les muscles de nos yeux.
Frédéric de Vignemont.
Ah ben j'avoue que j'apprends des choses, hein, j'en suis ravie.
Mais par rapport à cette notion de sens, parce qu'il y a quand même 2000 ans, Aristote dans son œuvre De l'âme identifie les cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Maintenant, on a d'autres types de sens qui sont aujourd'hui étudiés et qui font l'objet de recherches, Frédéric de Vignemont.
Oui, alors c'était un peu une conception naïve de croire qu'il n'y en avait que ces cinq sens. Maintenant, est-ce qu'on arrivait à un accord sur combien de sens on a, ce n'est pas clair, parce que selon les critères qu'on va choisir, on va en avoir plus ou moins. Juste pour donner un exemple qui est connu par tous, c'est le toucher. On a le toucher qui nous permet de savoir que j'ai par exemple cette bouteille dans la main, mais on a aussi la sensation thermique. Je peux sentir que la bouteille est froide. Est-ce que la sensation thermique est le même sens que la sensation de contact avec le toucher? Anne dit non avec la tête, je préviens nos auditeurs. Mais il y a encore une autre dimension du toucher, c'est le côté, ce qu'on appelle le toucher affectif. Si par exemple je venais caresser votre main, en étant tout à fait politiquement correct, est-ce que dans ces cas-là, on s'est aperçu que c'était des récepteurs qui n'étaient pas exactement les mêmes que quand c'était juste du simple contact, et que dans le niveau du cerveau, c'était aussi des zones différentes. Donc on va parler aussi de toucher affectif. Donc rien que le toucher lui-même se retrouve potentiellement distingué trois sens. Et ça, c'est que pour parler du toucher, parce que là, on a parlé de la proprioception, mais on pourrait aussi parler de l'interoception. L'interoception étant à l'origine, c'était au début du XXe siècle, on a commencé à parler de cette notion pour faire référence à toutes les informations qui venaient de nos organes internes, qu'il s'agit de notre cœur, de notre estomac, de notre vessie, toutes ces parties du corps peu nobles d'une certaine manière pour certaines, nous envoient non-stop des informations, des signaux. Et pour faire référence à tous ces signaux, on a parlé d'interoception.
On parle aussi parfois de nociception, sur notre sensibilité à la douleur. Enfin, tout ça pour dire que la définition du sens pose question, Anne Cavounoudias.
Alors pour moi, qui vais donner un point de vue neurophysiologiste, elle peut se définir justement par les structures qui composent ces sens. Donc pour qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait à peu près trois éléments. Le premier élément, ce sont les capteurs sensoriels qui vont avoir une spécificité. Ils vont être sensibles à une stimulation spécifique. Donc par exemple, évidemment, les cellules photoréceptrices des yeux sont sensibles à la lumière, les cellules ciliées des oreilles au son, et donc les capteurs musculaires à l'étirement du muscle. Donc il y a ces capteurs qui sont spécifiques. Le rôle du capteur est de transformer une information qui vient de l'environnement, qui peut être physique, mécanique, lumineuse, en un message qui est compréhensible par le système nerveux, qui est le potentiel électrique nerveux. Donc il faut faire cette transformation, le capteur est capable de faire ça. Donc un sens doit avoir, être composé de capteurs spécifiques. En plus de ces capteurs, il doit y avoir des voies sensorielles, que l'on dit afférentes, qui vont amener le message jusque dans les centres nerveux. Et enfin, comme l'a dit Frédéric, il faut qu'il y ait des centres spécifiquement dédiés au traitement de cette information, comme on a par exemple un centre visuel qui traite des informations visuelles, un centre auditif dans le cerveau qui traite des informations auditives, on a aussi évidemment un centre qui traite spécifiquement des informations proprioceptives ou tactiles ou interoceptives. Et donc, à partir de là, on peut définir un sens d'un point de vue physiologique.
Ce centre nerveux spécifique pour la proprioception, c'est le cortex somesthésique, c'est ça ?
Exactement, c'est le cortex somesthésique qui en fait recueille deux types d'informations, les informations proprioceptives et un petit peu dans un autre endroit, les informations plutôt de tactile. Et ce cortex somesthésique est une véritable carte de représentation de l'ensemble de notre corps. Donc toutes les informations qui proviennent de notre corps se projettent dans ce cortex, mais pas de manière chaotique, de manière très ordonnée, de manière à ce que chaque partie du corps se retrouve dans une région bien déterminée de ce cortex.
Mais alors comment, Frédéric de Vignemont, comment a-t-on fait la découverte justement de ce sens, la proprioception ?
Alors, je dois dire que je ne sais pas.
Alors, le premier qui a...
C'est très bien de dire je ne sais pas, on ne l'entend pas assez souvent. Ou Anne Cavounoudès.
Le premier qui a parlé, n'a pas parlé de proprioception musculaire, il a parlé de sens musculaire. C'est donc Charles Bell, c'était au 19e siècle. En fait, il s'était rendu compte que dans les muscles, justement, il n'y avait pas que des neurones moteurs, il y avait des neurones sensoriels. Et donc, c'est le premier à avoir imaginé que le muscle pouvait être un organe sensoriel, ce que n'avait pas imaginé Aristote. Et puis, le deuxième qui a vraiment développé cet aspect, c'est Sherrington, Charles Sherrington, qui est un neurophysiologiste anglais qui a eu un prix Nobel en 1932 pour ses travaux où il a beaucoup travaillé sur les boucles sensorimotrices que l'on a au niveau de la moelle. Parce que tous les réflexes que l'on a, un certain nombre de réflexes que l'on a, donc ce sont des réponses automatiques qu'on ne contrôle pas consciemment, qui passent par les centres de la moelle, ils sont reliés à ces fibres proprioceptives qui se connectent directement à des fibres motrices et ça forme une boucle qui permet de faire ce qu'on appelle la sensorimotricité, donc des réponses sensorielles et motrices avec des réflexes automatiques.
En effet, ce cher Charles Sherrington définit la proprioception dans les années 30 comme notre capacité à nous percevoir nous-mêmes sans avoir recours à la vision. Mais alors comment prouver l'existence d'un sens, Anne Cavounoudias ?
Alors, comment on prouve l'existence d'un sens ? Là, en l'occurrence, par exemple, on peut le démontrer extrêmement facilement, puisque si on est capable de le stimuler de manière spécifique et d'induire une perception chez un sujet en retour, on induit toute la boucle qui permet de définir l'existence de ce sens. Maintenant, toutes les perceptions, on peut avoir à partir d'un sens plusieurs perceptions. Par exemple, avec la vision, on peut percevoir les couleurs, on peut aussi percevoir les formes. Pour autant, ça reste, de mon point de vue, toujours le même sens. Donc, il faut dissocier les différentes formes de perception qu'on peut avoir et un sens. Un sens peut servir à plusieurs choses.
Un sens peut servir à plusieurs choses. Ça me ramène côté philo avec vous, Frédéric de Vignemont, parce que pourquoi c'est quelque chose d'important, justement, de comparer la notion de sens en neurophysiologie et en philosophie, notamment ?
Plus exactement, pendant très longtemps, la philosophie parlait beaucoup avec les scientifiques, voire ils avaient la double casquette. Un très bon exemple, c'est Descartes, notre philosophe français préféré, qui avait ce côté où il était un expert en optique, il était aussi un expert en philosophie, personne n'a pu éviter Descartes en terminale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a eu un moment donné où la philosophie s'est mise un peu dans sa tour d'ivoire, à considérer que d'un côté, il y avait la philosophie, qu'il ne fallait pas trop se mêler à ces affreux scientifiques qui essayaient d'avoir une approche beaucoup trop réductionniste et ce qui malheureusement conduisait à un peu des incompréhensions et des erreurs des deux côtés parce que les neurophysiologistes utilisaient les termes mais sans vraiment se poser trop de questions parce que c'était souvent des raccourcis pour eux pour faire référence à des entités neurophysiologiques et alors que les philosophes pouvaient leur apporter plus de clarté conceptuelle et les philosophes eux avaient un peu leurs intuitions naïves et croyaient que une intuition ça suffisait à valider une théorie or bien entendu cela ne suffit pas il faut à un moment donné des preuves objectives c'est ce que fournit les scientifiques. Et donc le dialogue sur la proprioception, c'est juste un exemple où on peut dire, ben voilà, nous sommes philosophes et neuroscientifiques, et bien en discutant ensemble, on a vraiment un travail qui est plus riche et plus intéressant, je l'espère.
Anne-Cave Moudias.
Oui, tout à fait d'accord. Et pour vous donner un exemple de convergence, on va dire, entre la philosophie, par exemple, et la neurophysiologie, les philosophes, je pense, les premiers, ont émis cette idée que la perception de la réalité n'existe pas vraiment, que la perception est une construction que réalise notre esprit. Et finalement, lorsqu'on est neurophysiologiste ou neuroscientifique et qu'on teste effectivement ces phénomènes de perception, on est arrivé aux mêmes conclusions. Effectivement, le cerveau, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il construit des percepts à partir d'informations qui lui parviennent. Je vous rappelle, les informations, ce sont des séries de potentiels d'action. Donc, il n'y a pas d'image, il n'y a pas, le son n'existe pas. Il est reconstruit par le cerveau. Et donc, c'est bien une reconstruction, une inférence que notre cerveau fait à chaque instant de la perception. Et ça avait été très, très bien décrit à l'origine par Descartes, justement, qui parlait de ces perceptions irréelles ou du monde irréel.
Alors, quels sont les troubles liés à la proprioception et comment l'étudie-t-on ? Restez avec nous. How Come to your sense de Mankins en direct sur France Culture, car nous parlons de ce sens méconnu qui est la proprioception. On en parle avec nos deux invités du jour, Anne Cavounoudias, chercheuse au Centre de Recherche en Psychologie et Neurosciences, directrice de l'équipe Corps et Multisensorialité, professeure de neurosciences à Aix-Marseille Université, et Frédérique de Vignemont, directrice de recherche CNRS, spécialisée dans la philosophie de la perception. On vient de voir qu'à la différence de la vue ou de l'ouïe, par exemple, qui récupère des informations extérieures, la proprioception capte des informations intérieures et les met en relation avec l'environnement. Mais si on a des lésions spécifiques de chacun de nos cinq sens traditionnels, par exemple la cécité pour la vision, la surdité pour l'ouïe, qui n'affectent pas les autres sens, qu'en est-il pour la proprioception, Anne Cavanoudias ? On évoquait en tout début d'émission la désafférentation. Pardon.
Oui, c'est un cas assez rare de perte totale de la proprioception musculaire. Ce sont des quelques patients dans le monde. Suite à une infection virale. D'une certaine manière, ce sont des individus qui ne perçoivent plus leur corps, donc ils ne perçoivent plus les mouvements de leur corps. Et donc, si par exemple, ils ferment les yeux, ils n'ont aucune idée de où se trouvent leurs mains dans l'espace, leurs jambes. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour eux. Ils sont en quelque sorte désincarnés, ils ne possèdent plus leur corps. Et la seule manière de se réapproprier leur corps, c'est par la vision. Donc, ils sont extrêmement dépendants de la vision. Tous les mouvements qu'ils doivent réaliser doivent se faire sous contrôle visuel. Et donc, comme l'expliquait Frédéric, c'est la raison pour laquelle, par exemple, ils ne peuvent plus marcher. Pour autant, leur système moteur est absolument intact. En théorie, ils pourraient commander n'importe quel mouvement, y compris celui de la marche. Sauf que marcher ou se tenir debout, c'est extrêmement complexe parce qu'on est face à la gravité. C'est extrêmement instable. Et ça nécessite pour votre système nerveux de contrôler en permanence vos mouvements. Donc ça, nous, on le fait de manière complètement inconsciente grâce à la proprioception. Mais si vous n'avez plus de proprioception, ça veut dire qu'il faut qu'à chaque instant, vous regardiez où sont vos pieds dans l'espace, où vous vous trouvez dans l'espace. Et c'est extrêmement compliqué avec la vision d'assurer la marche.
Frédéric de Vignemont, le cas clinique de désafférentation totale, la patiente désafférentée la plus connue, c'est Ginette.
Voilà, donc Ginette, c'était justement une patiente qui était québécoise, mais qui était soignée par un grand neurophysiologue marseillais comme Jacques Payet. Et qui, elle, s'est retrouvée à avoir cette condition au moment où elle avait un jeune enfant. Et ce qui fait qu'elle s'est retrouvée, donc vous pouvez imaginer la tragédie que ça représentait de ne plus pouvoir contrôler ses membres quand vous devez tenir dans vos bras un jeune enfant, un bébé. Et donc, elle a été incroyable. Elle a décidé de se battre, de tout réapprendre avec la base de la vision. Mais comme le disait Anne, c'est compliqué pour les jambes. Donc, elle s'est focalisée uniquement sur les membres supérieurs, sur les bras en particulier, parce qu'elle avait très peur, elle m'avait ainsi raconté, quand elle tenait son bébé, de soit l'écraser en serrant trop fort, parce qu'on n'a pas la conscience de la force non plus quand on n'a plus la proprioception, soit au contraire de ne pas le tenir assez, parce qu'elle avait perdu aussi le toucher, et donc de lâcher son enfant, ce qui représente pour toute jeune mère une sorte de cauchemar. Donc, mais après, moi je l'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, donc elle, ça faisait plus de 30 ans qu'elle était dans cette condition. Certes, elle était en fauteuil roulant, mais j'ai passé 3 jours avec elle à servir d'interprète parce qu'on était à Londres et j'oubliais totalement qu'elle n'avait pas de proprioception. C'était impressionnant. Et certes, elle a besoin de contrôler tout avec la vision, mais comme nous en voiture. C'est après tout la même situation. Et quand on est d'un grand conducteur, on est en même temps en train de téléphoner, de discuter avec la personne d'autre, voire d'apprendre une langue étrangère. On fait 10 milliards de choses à la fois. Et on maîtrise parfaitement son environnement et sa conduite. Elle était comme ça avec son propre corps. Son corps était devenu une sorte de voiture et elle le maîtrisait parfaitement malgré l'absence de proprioception.
Alors la désafférentation, c'est très rare. Hein, à notre connaissance, ça ne touche qu'une dizaine de personnes au monde. Mais on a des cas de dysfonction proprioceptive. Anne Cavounoudias, quels sont justement ces signes et ces symptômes d'une dysfonction de proprioception ?
Alors, on a des dysfonctions proprioceptives. Par exemple, si vous immobilisez un membre, donc suite à une fracture, vous êtes obligé d'immobiliser votre segment pendant plusieurs semaines. Et on a fait cette expérience sur des sujets sains. Alors, pas pendant plusieurs semaines, on a immobilisé la main de sujet pendant 5 jours. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? Ben, on coupe le cerveau des réafférences sensorielles, tactiles et proprioceptives. Hein, parce que vous ne bougez plus, donc il n'y a plus d'informations de mouvement qui parviennent à votre cerveau. Et on s'est rendu compte, avec une étude en neuroimagerie, en comparant avant et après, lorsque le sujet réalise un mouvement, eh bien tout le réseau sensorimoteur cérébral est altéré et atteint juste après 5 jours d'immobilisation chez des sujets sains. Donc c'est vous dire que immobiliser, donc vous priver de votre information proprioceptive même pendant 5 jours, a un impact sur votre réseau sensorimoteur cérébral.
Ça, c'est grâce ou à cause de la plasticité cérébrale ?
C'est exactement ça. C'est le phénomène de plasticité cérébrale. Votre cerveau va s'adapter dans les deux cas. C'est-à-dire, si vous utilisez plus un segment corporel, la plasticité cérébrale va faire plus de place à ce segment. Donc, par exemple, vous apprenez un nouvel instrument de musique ou vous servez davantage de vos doigts, de votre main. Votre espace de main va grandir. Inversement, si vous utilisez moins votre main, vous utilisez moins votre jambe, eh bien, la plasticité va avoir le même effet, mais en sens inverse, et va donc réduire cette représentation. C'est parfaitement réversible, bien sûr.
Moralité de l'affaire, en cas d'accident, il faut continuer de stimuler cette partie du corps immobilisée, même juste par la pensée.
Exactement. Alors, on a fait l'expérience, justement, on avait un groupe de sujets qu'on a stimulés pendant l'immobilisation. On leur a fait croire qu'ils avaient des illusions de mouvement pendant toute la durée de l'immobilisation. Et chez ce groupe de patients, quand on a regardé l'activité cérébrale après l'immobilisation, le réseau cérébral était parfaitement intact. Donc oui, lorsqu'on est immobilisé, évidemment, il ne faut pas bouger le segment, mais il faut continuer de réafférenter. Par exemple, simplement même toucher tactilement votre bras,
oui, c'est ce
qui est mobilisé, c'est très important.
Parce que là, comment vous dites la différence quand on est immobilisé ? Ils n'avaient pas de stimulation tactile, quoi. En tout cas, c'était toujours la même stimulation tactile, donc il y avait une sorte d'habituation. Donc comment on fait la part des choses entre l'effet de perte de proprioception et l'effet de perte de mouvement et l'effet de la perte de toucher ou de stimulation de changement de la perception tactile? Comment on distingue les deux?
Alors, c'est vrai que le problème de la vibration, c'est que ça active et le cutané.
Oui,
donc, il aurait fallu qu'on ait les tests purement tactiles, un troisième groupe, pour pouvoir vérifier si c'était bien l'effet proprioceptif. Mais pourquoi on pensait à proprioception? Parce que ça impactait tellement le réseau sensorimoteur, et notamment somesthésique, que ça correspondait vraiment au réseau de la proprioception, qui était altéré versus conservé.
Oui, puis par rapport justement à cette immobilisation de main, à ces exercices de mobilisation par la pensée, c'est aussi le concept d'imagination motrice.
Oui, en effet, en fait, on s'est rendu compte que quand on imagine un mouvement, donc sans le réaliser, on va mobiliser absolument les mêmes régions sensorielles et motrices que celles qui sont impliquées dans le mouvement réel. Et donc, simplement imaginer un mouvement peut vous permettre d'entretenir votre réseau cérébral impliqué dans le mouvement, même si vous ne le réalisez pas.
Et puis, on a des exemples de disproprioception, des exemples assez communs, hein, avec l'alcool par exemple. La proprioception est affectée par la prise d'alcool. Et puis aussi, chez les sujets âgés, Anne Cavounoudias.
Oui, on s'est rendu compte que les sujets âgés ont une perte assez importante de la proprioception musculaire, même par rapport au toucher par exemple. Et cette atteinte fait que, par exemple, ils ont plus de mal à discriminer la vitesse des mouvements de leur corps. Donc, c'est dans des discriminations assez fines. Mais quand même, et surtout ça se traduit chez eux par le fait que quand ils perçoivent le mouvement de leur corps, contrairement à nous, ils vont avoir tendance à mobiliser beaucoup plus de ressources dans le cerveau et donc notamment à co-activer ce qu'on appelle les deux hémisphères, donc les deux côtés du cerveau, là où un sujet jeune va n'activer qu'un seul côté, celui qui correspond au segment en mouvement. Et cette co-activation, en fait, n'est pas un gain. Plus ils vont co-activer et plus ça correspondra à de mauvaises performances, paradoxalement. Donc c'est pas un phénomène de compensation, c'est l'expression d'un fait que quand on vieillit, on a un problème d'équilibre, de balance entre les deux hémisphères, et ça se traduit par des troubles de la proprioception.
Et est-ce que tu as jamais testé des experts, là on parle des déficits, des difficultés, mais est-ce que tu as des experts de proprioception? On avait les joueurs de...
Ouais, ou les danseurs, j'ai jamais testé.
De basketball à l'origine, mais est-ce que justement tu as testé, est-ce qu'il y a des experts en proprioception?
Alors, j'ai pas testé les experts en proprioception, parce que donc ce que j'utilise beaucoup, c'est l'illusion. Et figure-toi que c'est plus difficile d'induire des illusions de mouvement chez un expert. Donc paradoxalement, j'ai un peu moins de moyens de manipuler. C'est plus difficile de manipuler un expert que de manipuler un non-expert.
Okay. Alors on continue de parler de justement comment étudier la proprioception dans le domaine de la recherche fondamentale. Comme on l'a vu, les sens ne fonctionnent jamais seuls, ils sont interconnectés. On parle ainsi de perception multisensorielle. La proprioception ne fait pas exception à la règle. Les facultés proprioceptives fonctionnent de concert avec un autre sens. Et c'est le sujet de notre reportage du jour. Bonjour Loïc Dutoit.
Bonjour Natacha.
Vous avez rencontré Claire Viard, directrice de recherche à l'INSERM et chef d'équipe à l'Institut du cerveau, où ils ont montré les liens entre interoception et proprioception chez le poisson zèbre.
Oui, alors l'interoception, c'est le sens qui permet de percevoir l'état de l'intérieur de notre corps. C'est ce qui nous permet par exemple d'évaluer notre rythme cardiaque. Dans le laboratoire où je me suis rendu, Claire Viard et ses collègues ont trouvé que certains neurones de la moelle épinière jouaient un rôle interoceptif en permettant de sentir la courbure de la colonne vertébrale. Et sans eux, on remarque une chute de la proprioception qui se traduit notamment par des difficultés à se déplacer. Alors pour l'instant, comme vous l'avez dit, Natacha, tout cela n'a été démontré que sur des poissons. Les poissons zèbres, parce qu'ils sont transparents et que cela facilite les expériences. Mais d'autres études ont quand même mis en avant un système similaire chez la souris et le macaque. Reste alors désormais à découvrir si cela fonctionne pareil chez les humains. Car si c'est le cas, ça ouvrira des pistes vers des nouvelles thérapies.
On a des poissons zèbres qui sont nés le 25 février. Quand on se met sur cette petite loupe binoculaire, on voit les animaux.
Oui, parce que là, les poissons zèbres qui sont dans cette petite boîte en dessous, ils sont vraiment minuscules.
Alors, ils font 4 mm de long. Et leur caractéristique, c'est qu'ils sont tellement transparents qu'on peut voir leur cœur battre à travers de leur corps. On peut voir le flux sanguin à travers tous les vaisseaux.
On voit aussi leur cerveau et leur moelle épinière, du coup.
On voit tout le cerveau et toute la moelle épinière. Et du coup, on peut regarder l'activité des neurones avec la lumière en utilisant des senseurs fluorescents de l'activité neuronale. Et après, pendant mon post-doc, je me suis rendu compte qu'on pouvait non seulement sonder l'activité des réseaux avec ces méthodes optiques, mais qu'on pouvait aussi aller manipuler l'activité des neurones en utilisant la lumière pour activer les neurones ou les silencer grâce à des opsines qu'on va exprimer juste dans des neurones d'intérêt. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené des opsines dans les neurones proprioceptifs ou dans les neurones interoceptifs et on a vu qu'est-ce qui se passe quand je les active, qu'est-ce qui se passe quand je les rends silencieux.
Et cette technique qui permet de manipuler l'activité cérébrale du poisson zèbre à distance, grâce à la lumière, elle a permis de faire de nouvelles découvertes.
La grande découverte qu'on a faite, c'est que là où les gens pensaient que toute l'information de rétrocontrôle sensoriel pendant la locomotion chez les vertébrés venait de ce qu'on appelle la proprioception, de ces voies périphériques qui nous permettent de sentir la contraction de nos muscles ou la tension sur les tendons de Golgi. Nous, on a montré en fait qu'il y avait une voie qui jouait un rôle similaire, mais qui n'était pas exactement placée au même endroit, puisque au lieu d'être dans la périphérie, cette voie interoceptive, elle est centrale et elle permet de détecter non pas la contraction des muscles, mais la courbure de la moelle épinière.
Est-ce que vous pourriez préciser où se situe la moelle épinière, globalement, à la fois chez l'humain et chez l'animal, et pourquoi sentir la courbure de cette moelle épinière, c'est si important pour se mouvoir?
Oui, alors du coup, la moelle épinière confinée dans la colonne vertébrale, elle est au centre même de cette charpente, qui est la colonne, qui nous permet d'avoir un axe et de nous tenir. Donc nous, chez les poissons, on a découvert que si on regardait ces cellules sensorielles, elles sentaient la courbure du côté de la contraction, et que si on manipulait ces cellules pour les rendre silencieuses, l'animal allait nager à nouveau plus lentement, mais en plus de ça, il allait perdre l'équilibre. Ce qui est hyper intéressant, parce qu'il ne perd pas l'équilibre au repos, il perd l'équilibre quand il est en mouvement. Cette voie sensorielle, elle va permettre à l'animal d'aller plus vite, mais aussi de garder sa stabilité pendant qu'il nage, pendant la locomotion rapide.
Ça se manifeste comment, ça, une perte d'équilibre chez un poisson?
Quand ils perdent ce système sensoriel, en fait, ce qu'on a vu, c'est ce que je vous montre ici, c'est que tout d'un coup, l'animal se met à nager comme s'il suivait la courbe d'un tire-bouchon. Il nage en spirale et il va du coup être sur le côté. Il perd la capacité de rester stable et horizontal. Et ça nous a beaucoup intrigués, parce que ça voulait dire qu'il n'y a pas uniquement le système vestibulaire qui est important pour garder notre stabilité au niveau de la tête, il y a aussi un système qui nous stabilise au niveau de la moelle épinière et la colonne vertébrale. Donc si jamais je veux mimer l'expérience qu'on a fait pour tester le rôle de la proprioception et de l'interoception dans le mouvement rapide, si je fais ça, je tape sur la boîte de Pétri, et je vois qu'à chaque fois que je tape, les animaux se mettent à nager en faisant une réponse de fuite qui est très caractéristique, où leur corps fait un C et ils partent le plus loin possible du danger qui est un prédateur potentiel, quoi.
Et c'est à ce moment-là, dans les expériences, où si on a bloqué, si on a silencé la proprioception
ou l'interoception, on a un ralentissement de la réponse. Donc l'animal va aller beaucoup moins vite pour faire le même mouvement et du coup, il a plus de chances d'être mangé par un prédateur. Et il a aussi, tout d'un coup, un nouveau comportement. Au lieu de nager en restant stable, horizontal, il va tout d'un coup perdre l'équilibre et se mettre à tourner en spirale. Comme s'il avait bu, mais il n'a pas bu.
Ce système interoceptif qui permet de sentir la courbure de la moelle épinière, en plus d'être important pour la locomotion, il est aussi responsable de la forme de la colonne vertébrale chez l'animal. Et si on apprend que l'humain fonctionne de la même manière, on trouvera peut-être des pistes pour soigner les scolioses, cette pathologie qui touche 3% des jeunes de 16 ans.
Donc quand on regarde des animaux, on a altéré ce système sensoriel, on va avoir différents types de courbures de la colonne vertébrale, on va faire des bossus ou bien on va faire des tordus, où on a des déformations en trois dimensions qui vont mimer du coup la syphose chez l'humain ou la scoliose qui est tridimensionnelle chez l'humain.
On peut clairement supposer que des pathologies comme la scoliose, elles soient provoquées par des déficiences sur ces neurones qui sont responsables de l'interoception de cette moelle épinière.
Tout à fait, exactement. Et ce qu'on a découvert en faisant des expériences chez l'animal, c'est que beaucoup des déformations précoces vont avoir des causes génétiques, mais on a découvert qu'il y avait des déformations tardives comme cette syphose que je vous montre ici, ou même des cas de scoliose qui étaient liés à des infections par des pathogènes. Et donc on a fait des expériences où on injecte la bactérie qui s'appelle le streptococque pneumoniae, qui est la première cause de méningite chez l'humain. On l'injecte chez le poisson zèbre, on peut la suivre parce qu'on l'a rendue fluorescente avec une protéine rouge. Et en faisant ça, elle active nos neurones de contact qui sont au centre de la moelle épinière, qu'on voit très activés. Et ça va conduire à une déformation de l'axe du corps qui est opposé à ce qu'on voit quand on perd cette voie sensorielle. Et du coup, on développe en fait une torsion de la colonne liée à une infection. Et ça, c'est très évident chez les animaux. Et on ne sait pas encore si c'est vrai chez l'humain, en fait. Et aujourd'hui, grâce à des personnes qui ont donné leur corps à la science, on a accès aux tissus de la moelle épinière, du cerveau, et on est en train de regarder si on trouve des neurones interoceptifs dans la moelle épinière humaine. On a des indications qu'il y en a beaucoup.
Merci Loïc Dutoit. Depuis hier, vous pouvez retrouver notre collection de reportages La Science au Labo sur l'appli Radio France et aussi en podcast sur franceculture.fr. Anne Cavounoudias, une réaction à ce qu'on vient d'écouter sur les perspectives thérapeutiques, notamment de l'étude de la proprioception.
Oui, alors pour rebondir sur le reportage, en effet, en réalité, il y a des expériences en cours qui sont faites et qui font un rapprochement entre la scoliose et l'origine potentielle proprioceptive de la scoliose. Et en particulier, on a découvert, ça c'est le prix Nobel 2021, qui a découvert des mécanorécepteurs Ardem-Patapoutian, qui a découvert des canaux dans les capteurs proprioceptifs qu'on appelle les piezo-2, et on s'est rendu compte que chez les humains, si génétiquement ils étaient mutés, ces canaux, qui sont donc spécifiques des mécanorécepteurs proprioceptifs, eh bien ces personnes développaient des scolioses. Et des expériences ont été faites également chez le rongeur, on a muté des gènes qui sont impliqués dans les capteurs proprioceptifs, et tous les rongeurs mutés, donc pour ces gènes, et donc il y avait un déficit de proprioception, développaient une scoliose.
Alors pour poursuivre cette émission qui touche bientôt à sa fin, Frédéric de Vignemont, vous travaillez en tant que philosophe, vous êtes intéressé à la proprioception. Au départ, vous travaillez sur la conscience de soi, la conscience de son propre corps, et votre question c'est: est-ce que la proprioception est la clé du soi comme entité physique? C'est bien ça?
C'est tout à fait ça. En fait, la conscience de soi, bon, c'est une très vieille question en philosophie. Et on a toujours essayé de chercher quelle était l'origine de la conscience de soi. Surtout si on prend une notion de soi assez minimaliste. On ne parle pas des souvenirs ou de la mémoire. Là, on cherche un soi corporel. Et on pourrait se dire que la proprioception a quelque chose d'assez magique par rapport à, par exemple, la vision. La vision, par exemple, je peux voir que vous avez les deux bras, les deux mains rapprochées. La vision me donne des informations aussi bien sur mes propres mains que sur vos propres mains. Et que ça ne me permet pas de faire, d'une certaine manière, la distinction entre nos mains. En revanche, il y a une information, le fait que je ne vois pas vos jambes là et je ne sais pas si vous avez les jambes croisées ou pas. Seul vous êtes capable de le savoir. Et comment vous le savez? Par la proprioception. Donc en fait, la proprioception, c'est une sorte de mode d'accès à son corps qui n'est partagé avec nul autre. Vous avez un accès privilégié. Et par avoir cet accès privilégié, ça veut dire que si vous le ressentez de l'intérieur par la proprioception, ça veut dire que c'est forcément vous. Si vous voyez quelque chose, c'est pas forcément vous. Si vous le ressentez de l'intérieur, c'est forcément vous. Donc on pourrait croire que la proprioception, c'est comme ça la clé de la conscience de soi corporelle, parce que ça nous donne cet accès absolument unique et privilégié. Malheureusement, les choses sont toujours un peu plus compliquées que prévu, mais aussi donc plus amusantes. On s'est aperçu qu'il y avait, là je reviens sur les populations cliniques, il y avait certains patients qui, suite à un accident cérébrovasculaire, avaient toujours leur proprioception, avaient toujours le sens du toucher, sentaient leur corps de l'intérieur, mais pour autant ne ressentaient plus une partie de leur corps comme leur appartenant. C'est ce qu'on appelle quelquefois le syndrome de la main étrangère. Et comme ça, ces personnes peuvent décrire que leur main gauche, qu'ils voient bien en continuité avec le reste du corps, qu'on peut pincer, ils vont dire « aïe », mais pour autant, ils sont convaincus que ce n'est pas leur propre main, malgré le fait qu'ils ont la proprioception. Donc ça veut dire que la proprioception est probablement un élément clé, mais ce n'est pas un critère suffisant pour savoir que c'est le soi.
La proprioception n'est pas la condition suffisante à la conscience de soi, mais en plus, il existe de la proprioception. Par procuration, on peut penser au tango. Ça, c'est un exemple de proprioception comme perception de l'autre. Quand on danse, on peut danser les yeux fermés, on est réceptif au moindre mouvement du partenaire. Ça, c'est peut-être un exemple aussi de proprioception par procuration.
Alors oui, c'est effectivement, on pourrait croire naïvement qu'il n'y a que le soi, mais il y a ces cas-là, et puis ça peut être le corps de l'autre, ça peut être aussi un objet. Si vous êtes sur un bateau, vous sentez, mine de rien, les mouvements du bateau. Alors, il y a le sens de l'équilibre participe, mais il y a aussi la proprioception qui va y participer. La seule chose qu'on peut noter, c'est que quand même, dans tous ces cas-là, ce n'est pas immédiat ni direct. C'est toujours par la médiation de son propre corps que l'on sent le corps de l'autre, que l'on sent le bateau, que l'on sent les mouvements externes. Et donc, il y a toujours le corps qui fait cette espèce d'intermédiaire nécessaire à notre appréhension de l'autre, même si c'est une appréhension qui n'est pas visuelle, mais une appréhension de l'intérieur.
Sentir le corps de l'autre, et puis aussi sentir notre corps, mais qui n'existe plus, je pense aux membres et aux douleurs fantômes. Anne Cavanoudias, un sujet sur lequel vous travaillez, et vous travaillez également pour trouver des thérapies pour soulager les patients qui souffrent de ces douleurs, qui seront d'ailleurs assez... qui sont assez terribles d'ailleurs dans le quotidien des patients.
Oui, c'est un phénomène un peu incroyable. Suite à l'amputation d'un membre, en fait, les patients rapportent toujours la présence de ce membre, des sensations. Chez certains patients, ces sensations sont non douloureuses. Ils vont percevoir leur membre. Certains sont même capables de le bouger, hein, le pied qui a disparu. Mais quand même, dans 60 à 90% des cas, ça s'accompagne de douleurs qui sont parfois extrêmement fortes. Ils vont décrire des décharges électriques, des brûlures extrêmement forte, ça se présente sous forme de crise. Chez beaucoup de ces patients, on n'a toujours pas de solution. Ce phénomène fantôme est connu depuis très très longtemps, le 19e siècle. Pour autant, on n'a toujours pas complètement résolu les sources, les bases neurales de cette douleur. Et donc, une thérapie qui avait été mise en avant dans les années 90 par un Américain qui s'appelle Ramachandran, s'appelle la thérapie miroir, qui consiste faire croire au sujet que son membre disparu existe toujours au travers d'un miroir, donc la réflexion d'un membre sain dans le miroir fait croire au sujet que son membre amputé est toujours présent. Et donc l'idée, c'est de redonner au cerveau l'idée d'un membre existant pour essayer de diminuer ces douleurs fantômes. Mais on se rend compte que ça marche pas très très bien, et probablement parce que là, pour le système visuel, ne suffirait pas à réentretenir cette idée, la perte des afférences du membre disparu.
C'est comme si le cerveau était en manque de, justement, d'afférences, d'informations sensorielles, et qui comblait...
Exactement. Et pour le combler, il faut pouvoir vraiment renvoyer des réafférences. Et donc là, on essaie de tester justement l'effet d'illusion de mouvement du membre fantôme induit par vibration proprioceptive, pour voir si ça a un effet et un impact sur les douleurs fantômes. C'est une étude en cours avec des résultats encourageants.
Ça, si ça fonctionne, cette technologie pourrait donc être incluse dans les prothèses, par exemple, Anne Cavanoudias.
Exactement, ce serait extrêmement intéressant de les inclure dans les prothèses, et ce serait un double effet. Donc ça pourrait avoir pour effet, évidemment, de diminuer les douleurs fantômes, mais ça pourrait avoir aussi pour effet d'améliorer l'appropriation de la prothèse par le patient, parce que c'est extrêmement compliqué pour un patient. La prothèse demeure un outil, une extension du corps sans être le corps. Et donc là, on retombe dans les questions de qu'est-ce qui est mon corps, comment je m'approprie mon corps. Et effectivement, sans proprioception, c'est difficile de s'approprier cette prothèse.
Bien, merci à vous deux, c'était passionnant. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais pour prolonger l'écoute, vous pouvez aussi vous plonger dans l'ouvrage de Frédéric de Vignemont, Désenchanter le corps, publié chez Odile Jacob en 2023. Merci à vous deux. Et puis tout de suite, un tout autre sujet, l'obésité et le surpoids ont doublé en 30 ans. C'est la chronique Avec Science.
Comment l'obésité évolue-t-elle à travers le monde? Ce n'est pas un secret pour les médecins, l'obésité et le surpoids augmentent partout. Mais de quoi parle-t-on exactement? L'obésité, selon l'Organisme mondial de la santé, c'est un excès de masse graisseuse qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé. Et ce que montrent les études, c'est qu'on a beaucoup de mal à enrayer l'augmentation de l'obésité, ce qui a des conséquences importantes sur la santé des individus et sur l'économie des pays les plus touchés. En France, on compte près de 17% de personnes obèses
obèses parmi les adultes, un pourcentage qui a doublé au cours des 25 dernières années et qui s'explique par une transformation de nos modes de vie. Jean-Michel Aupert est professeur de nutrition à Sorbonne Université et chef du service de nutrition de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
L'obésité, c'est un problème multifactoriel, ce qui explique la difficulté aussi de s'en occuper. Donc les facteurs d'environnement, c'est notre environnement alimentaire, notre environnement d'activité physique, c'est-à-dire le dessin des villes, tout ce qui nous permet de faire de l'activité physique. C'est aussi l'environnement commercial, l'environnement digital, l'environnement socio-économique. Après, bien sûr, il y a des facteurs de comportement, donc qui sont liés à la façon dont on s'alimente, à la façon dont on bouge, également au sommeil. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs biologiques qui peuvent peut-être favoriser la prise de poids. Dans un certain nombre de cas, plutôt rares, il y a des obésités génétiques. Mais c'est vraiment un ensemble de facteurs qui vont s'associer pour favoriser la prise de poids.
On manquait jusqu'à présent de données mondiales sur l'évolution du surpoids et de l'obésité. Et c'est justement ce que propose cette nouvelle publication dans The Lancet, qui a été menée par le groupe de recherche Global Burden of Disease, qui agit sous l'égide de l'OMS. Alors, les scientifiques ont analysé plus d'un millier de bases de données issues de 204 pays. Ils se sont concentrés principalement sur l'évolution de l'IMC des populations au cours des 30 dernières années, entre 1990 et 2021. L'IMC, vous savez, c'est l'indice de masse corporelle, poids divisé par la taille au carré. C'est un indicateur qui a ses limites, mais pour les travaux de grande ampleur, il est très utile, puisque c'est un critère facile à obtenir. Les auteurs notent qu'à travers le monde, le nombre de personnes en situation de surpoids ou d'obésité a doublé en 30 ans. On parle de 2,11 milliards de personnes adultes en 2021. 493 millions d'enfants. Cette croissance n'est pas égale partout, bien sûr. Et la moitié des personnes en surpoids dans le monde est concentrée dans 7 pays. La Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, la Russie, le Mexique, l'Indonésie et enfin l'Égypte. Aux États-Unis, par exemple, l'obésité touche 42% des hommes et 46% des femmes. Mais cette étude, elle fait aussi des projections et c'est d'ailleurs son grand intérêt. En supposant que les tendances restent les mêmes et que les politiques de santé publique ne changent pas, le nombre de personnes en surpoids ou en obésité devrait exploser d'ici 2050. L'estimation haute est de 60% de la population mondiale. C'est 3,8 milliards de personnes adultes, donc de plus de 25 ans. Et sur le podium, on devrait retrouver les trois mêmes pays, Chine, Inde et États-Unis.
Donc c'est très très frappant de se dire qu'en 2050, par exemple, il y aura 630 millions de personnes en situation d'obésité en Chine, 450 millions en Inde et 240 millions aux États-Unis. Donc c'est absolument énorme. Et le quatrième pays, ça c'est un des intérêts aussi de cette étude de santé globale, c'est le Nigeria qui va avoir une explosion de la prévalence du surpoids et de l'obésité, qui va passer de 37 à 140 millions. Donc là, on voit que ces prédictions, elles sont très 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 inquiétantes. Et l'autre élément qui est intéressant dans ce travail, c'est de regarder les cohortes de naissance, c'est-à-dire on suit l'évolution des personnes qui sont nées en 1960, en 1970, en 1980. C'est plutôt autour de 50 ans, par exemple, qu'on a la prévalence la plus élevée au cours de la vie. Et donc, ils ont observé que le pic de prévalence sera obtenu de 10 à 30 ans plus tôt.
Ce qui veut dire que le pic de surpoids devrait survenir de plus en plus tôt dans la vie des individus. Au lieu de 50 ans, ce serait plutôt vers 30 ou 40 ans. Cette augmentation passée et probablement future s'explique par les évolutions économiques, numériques et nutritionnelles qui favorisent la sédentarité et les aliments transformés. Alors, limiter l'évolution de l'obésité, vous vous en doutez, c'est une tâche absolument colossale qui dépasse largement le secteur de la santé et qui doit se faire avec les industries et beaucoup d'autres acteurs pour transformer en profondeur nos modes de vie.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Loïc Dutoit, Lou Angers. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Clara Ganivelle. N'hésitez pas à nous suivre sur Blue Sky, @Science CQFD. Chiche, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.